Bonjour et bienvenue au 1AE Club, le podcast BD bimensuel qui s'enfile des Cream and Cookies. Bonsoir. Alors on est un petit peu fatigué, on enregistre le soir, c'est assez rare, d'habitude on fait ça l'après-midi, on est sage, et donc là on est le soir et on est moins sage.
C'est l'émission de l'été, c'est celle qu'on fait l'an dernier, c'était Limoncello, ce soir c'est Myrthe.
Voilà, c'est Myrthe, bon on a un pote à Kérom avant, donc normalement l'émission va être super drôle. Tant mieux, parce qu'on va pas parler que de bonnes choses. Au programme aujourd'hui, on va vous parler de Batman Universe 7 et 8, de Ultimate Captain America, de Shadowland et de Daredevil 22, de Pluto numéro 8, de Jason Bryce, et on finira en parlant de Stouff et Jean Ouf. Thio, bienvenue, enchanté, c'est un plaisir de te rencontrer.
C'est vrai, c'est pas comme si on se connaissait déjà.
Voilà. Donc je suis Yoann Aipier, vous écoutez notre podcast et peut-être même que vous l'écoutez sur Pod Radio, genre. Parce qu'en fait, on est peut-être sur Pod Radio. Alors normalement, à l'heure actuelle, je n'ai pas la confirmation sur machin chose de leur programmation, etc. Mais autant on est dessus. Et puis on est même en plus sur Bad Geek, un petit groupe qui essaye de réunir des podcasts pour monter des événements, se rencontrer ensemble et peut-être un jour qu'on se retrouve tous, genre à la Japan Expo 2012 ou un truc dans le genre. Ça pourrait être rigolo.
Je peux pas, je travaille.
Oh là là, quel casse-couille. Bien, je pense qu'on est pas mal. Oui, au niveau des votes sur les BD qu'on va acheter, hein, je crois qu'on va le clôturer ce soir, c'est le bon moment.
Bon, c'est fait, voilà.
Voilà. En théorie, c'est Pyongyang qui a gagné, je vais quand même vérifier. Tu peux meubler un peu, s'il te plaît.
Ok, donc c'est une vérification en live, là, il saisit donc sa souris, il la manipule avec dextérité, il titille le bouton, et oh surprise, ah, ben notre site a planté. Il dit « Rien trouvé ».
Alors, c'est Pyongyang qui a gagné avec 50% des votes, soit 8 votes. Non, c'est pas mal, 8 votes. 50%, ça veut dire qu'on a eu quand même 16 votants, c'est sympa de votre part. Merci les 16 gens qui écoutaient le podcast jusqu'au bout et qui votaient. Juste derrière, on avait quand même le bleu, une couleur chaude, avec 4 votes.
Bon, là, je vous tue le suspense, parce que le bleu est une couleur que j'ai acheté, donc du coup...
Ouais, il a craqué, il a lu deux fois Virgin à l'intérieur, et au bout de la troisième fois, il s'est dit, je vais peut-être quand même l'acheter.
Je vais l'acheter, parce que ça fait déjà deux fois que je le lis, donc bon.
Donc, moi, je ne l'ai pas encore lu, pour le coup. Et on a quand même...
Surtout qu'il est en plus introuvable, parce que j'ai quand même fait, pour ceux qui connaissent Bleuet à Bannon, ils en ont plus. J'ai fait Fnac à Aix, ils en ont plus. Fnac à Marseille, à La Valentine, ils en ont plus non plus. C'est le truc qu'il y en a, voilà, il y en a plus. Le bleu, ah oui, d'une couleur chaude a plu, quoi.
Ah, t'as peut-être même une première édition, etc.
Wow. Vu que je ne revends pas mes BD, ça ne sert à rien, en fait.
Ouais, tu les revendras pour te racheter une 50e édition le jour où tu auras besoin d'argent.
Non, pour ma retraite.
Ouais, c'est ça.
Que j'aurai pas. Allez, passons à des choses qui me font un peu plus rire.
Batman Universe numéro 7 et 8.
Ça fait pas franchement rire, mais bon.
Voilà. Alors le Batman Universe, on est encore dans... Alors pourquoi les 7 et 8? Parce que c'était l'été et tout, on a eu plein de tomes, on est à la bourre, on vous a pas reparlé de plein de choses. Donc nous avons dedans les deux séries, nous avons Batman et Robin, scénarisé par Grant Morrison et illustré par plusieurs dessinateurs. Et nous avons aussi la série Batman de base, qui est scénarisée pour le numéro 700 par Grant Morrison, et sinon c'est Tony Daniel. On va s'intéresser série par série, ce sera peut-être plus simple. Quoi, quel regard perdu.
Complexe, là.
Non, mais série par série, Batman et Robin, et ensuite le Batman tout court. C'est facile. Batman et Robin, au niveau de l'histoire, on va pas tout vous raconter, mais ce qui se passe, c'est que on a la fin déjà d'une histoire précédente qu'on va zapper. T'avais pas trop aimé les dessins, toi, de... Ah, zut, je trouve plus son nom.
Bob.
Non, Cameron Stewart. T'avais pas trop accroché au dessin de Cameron Stewart.
Ça a pas changé.
Voilà, ça n'a pas changé. Moi, je trouvais ça sympa. Par contre, au numéro 10 de Batman et Robin, on arrive avec Andy Clark,
et qui ça, a un ça style a beaucoup
vachement
changé.
Fun. Autant, on n'a pas dit forcément super du bien des Batman et Robin de Morrison.
Non.
Alors déjà, on va parler du genre, parce que là, on fait tout à l'envers.
Ouais.
C'est du thriller vicieux.
Yes, c'est ça.
C'est du thriller vicieux. On se retrouve... voilà, t'avais pas trop accroché. Et là, bah moi...
ouais,
j'ai trouvé que là... Pas... En fait, tout commençait à... On a l'impression qu'il a laissé plein de petits bouts de scénario dans les épisodes précédents, et que d'un coup, tout se réunit et que ça devient intéressant.
Qu'est-ce que t'as mis comme mot, par exemple, pour le scénar, toi?
Pour le scénar, jouissif.
Donc bon, comme d'habitude, j'ai pas respecté la consigne, hein, ça c'est normal, je suis un stit. Donc moi j'ai mis compliqué, mais génial.
Voilà. D'accord.
Je suis vraiment d'accord avec toi, c'est que là
ça commence déjà cette histoire-là par Damien Wayne qui arrive.
Ça a pris forme, quoi.
Damien Wayne qui arrive à Batman à la fin à la corporation et que ce petit merdeux, je sais même plus quel âge il a, il doit avoir 13 ou 14 ans, même pas, arrive et commence à dire bon les gars. Maintenant, faudrait que les choses marchent bien. Il est toujours aussi merdeux, t'as toujours envie de le baffer, autant. Et là, Grant Morrison arrive à faire quelque chose de très sympathique pour qu'on ait moins envie de le baffer. En plus, qu'on ait moins envie de le baffer. Déjà, bon, on va un peu gâcher le suspense parce que c'est quelque chose qui arrive en cours de numéro. On a le Joker qui revient. Qui revient, on va pas expliquer comment, mais de façon intéressante. Et on a Damien Wayne, ça c'est dans le numéro 8, qui se retrouve face au Joker. Et Damien Wayne, ce petit merdeux arrogant, se retrouve quand même face au super gros méchant. Et au début, on se dit, ah, c'est un petit merdeux arrogant, mais il va se le taper, le Joker, parce qu'il est trop fort. Et plus on avance dans le truc, plus on se dit, ouh, qu'est-ce qu'il est vicieux, ce Joker, qu'est-ce qu'il est malin, qu'est-ce qu'il est pas con, quand même. Et qu'est-ce que le petit Damien Wayne, il va prendre cher dans sa face. Parce que Damien Wayne, lui, il a pas peur d'éclater les gueules du Joker, presque à le tuer dans la cellule où il interroge.
Parce que pour lui, c'est pas grave.
Mais non, c'est pas grave. D'un autre côté, il a été élevé par une guilde d'assassins.
Ben, bon. Surtout, c'est qu'il comprenait pas pourquoi.
Avant qu'on arrive à là, ce qu'il faut savoir, c'est que la maman de Damien, qui est super sympa, lui a mis un truc dans la tête pour le contrôler et pour le pousser à essayer de latter la gueule à Batman. Pour le fun, en gros, hein, parce que c'est un peu une grosse vicieuse, elle doit avoir un contrat ou je sais pas quoi, c'est une assassin.
C'est juste pour se venger, en fait, parce qu'il a mis plein d'idées à la con dans la tête de Damien.
De son fils, voilà, elle est pas contente. Ah, l'éducation de mon fils est complètement corrompue, il trouve que tuer des gens gratuitement, c'est pas si bien que ça.
Même s'il en meurt d'envie.
Bref, on a ce Damien Wayne qui, est, je trouve, devient super intéressant, alors que jusqu'ici, c'était juste un merdeux qu'on avait envie de baffer, qui commence à prendre de la profondeur, je trouve, avec son lourd passé d'assassin, mais sa volonté de rester Robin, parce que, en fait, c'est un rôle qui lui plaît. C'est ça qui est surprenant, parce que quand tu connais sa personnalité telle qu'elle, je veux dire, au début, avec Dick Grayson, il y va tout le temps avec à la provoque contre Dick Grayson, hein, il fait vraiment son merdeux, quoi. Et là, tu sens qu'en fin de compte, il fait son merdeux, mais que ça lui plaît quand même, quoi. Il n'est pas forcé d'être le Robin, et qu'il aime ça. Et que, quelque part, il respecte Dick Grayson. Et que Damien Wayne respecte quelqu'un, est assez énorme en soi.
Ben, il commence à... Je trouve que là, le Batman commence à... Enfin, Dick Grayson commence à prendre vraiment, on va dire, un petit peu le... Il rentre vraiment dans le costume, quoi. Il commence à avoir des...
Ça tombe vraiment mal, en fait.
Oui.
Parce qu'on nous annonce déjà, bien sûr, le retour de Bruce Wayne.
Non, mais il commence vraiment, je trouve, à bien rentrer dans le costume. Il commence à avoir une vraie réflexion. Mais la série devient vraiment intéressante parce que tu te retrouves avec un Batman qui est très différent du Batman. Et... Il a aucune réflexion sur... oui, mais là, je fais le mal. Ou, tu vois, il n'est plus en train de se réfléchir sur sa vengeance, sur son goût. Non, en fait...
Il est là pour faire la justice.
Il est là pour rendre la justice, mais il s'en fout presque des conséquences. Contrairement à l'autre, qui était toujours en train de se dire « Non, je ne peux pas aller jusqu'à telle limite. » Lui, t'as l'impression...
Non, je ne trouve pas. Je trouve que Dick Grayson, quand même, a des limites. Mais lui, il n'est pas dans la vengeance, en tout cas.
Ben, juste, oui, mais à un moment, il le dit dans le bouquin Gordon... Lui dit, mais tous les flics préfèrent votre méthode que votre prédécesseur.
Ouais, mais c'est parce que il laisse des indices pour que les flics aient une chance d'arrêter les gars.
Oui, mais il y en a certains quand même qui tartinent quand même sévèrement, quoi.
Oui, mais il leur latte pas la gueule que pour leur latter la gueule. Il laisse au boulot, aux flics, de quoi faire leur job derrière pour que les gars soient condamnés. Parce que le problème de Bruce Wayne, c'est qu'il chopait un gars, il lui explosait la gueule, il le laissait, et les flics se retrouvaient avec aucune preuve. La seule preuve qu'ils avaient, c'est que le mec s'était fait tabasser et que donc c'est la victime. C'était un peu ça. Va faire... Tu sais que c'est un criminel parce que Batman lui a pété la gueule, mais tu peux rien faire pour lui parce que là, il apparaît comme une victime.
Ouais, je pense que non, c'est pas si... Ouais. Mais... Moi, je le pense quand même plus expéditif, quoi.
Bah, c'est l'équipe aussi. En tout cas, ce que je trouve, c'est qu'ils ont réussi à refaire le dynamique duo qu'on avait avec Batman et Robin. Sauf que plutôt que d'avoir l'ingénu Robin et le sombre Batman, on a le justicier, le mec qui est vraiment, c'est le paladin Batman avec Dick Grayson. Et à côté, ce Robin qui est en pleine rédemption, en fin de compte. Et c'est super intéressant. Voilà pour vite fait le scénario de ça. L'autre série qui est la série Batman qui arrive à son numéro 700 avec beaucoup de dessinateurs, qui commence à annoncer le retour de Bruce Wayne. Les annonces commencent à arriver. Et là, disons qu'on continue avec Tony Daniel qui s'intéresse un peu aux histoires autour de la pègre, aux histoires autour du passé de Robin.
De la famille Wayne aussi.
Voilà. Bon, après, il faut savoir que dans les deux bouquins qu'on a là, on a très très peu de ce Batman-là. Surtout Batman et Robin qui sont présents. Hein. Dans le numéro 7, on a... dans le numéro 8, pardon, je disais 3 épisodes de Batman et Robin et 1 de Batman. Et dans le numéro 7, on a 3 épisodes de Batman et Robin et 2 de Batman. Donc autant dire que c'est Batman et Robin qui tiennent le haut du pavé. Donc là, on a le numéro 700. On commence à s'intéresser au fait que Batman soit dans le passé et que donc on commence à avoir le Batman à travers le temps en fonction de ses actions. Là, Grant Morrison réinclut, et ça je crois qu'il avait déjà fait dans des numéros avant, mais Batman Beyond. Tu connais Batman Beyond ? Le dessin animé, est-ce que tu te souviens de Batman Beyond, le dessin animé ? Qui était le Batman du futur où Bruce Wayne était un vieux qui entraînait un jeune à être le Batman. Est-ce que tu t'en souviens ?
Entre les vapeurs de Myrte, ça revient.
Ouais. Voilà. Sauf que ce truc-là, c'était dans le dessin animé, c'était pas dans la BD. Bon, bah Grant Morrison, il a tout balancé, c'est dans la BD maintenant, c'est une sorte de continuité officielle du futur. Ça doit être juste après Dark Knight Returns, un truc dans le genre, tu vois. Genre, Bruce Wayne s'est calmé, a décidé de ranger son costume et d'élever un jeune et lui apprendre à lutter. Et donc, on s'intéresse surtout au côté sur le fait que il y aura toujours un Batman, plus ou moins différent. Et dans ce Batman 700, en gros, on va avoir 3 Batman. On va avoir Bruce Wayne, Dick Grayson et Damien Wayne. On nous annonce dans ce Batman-là que Damien Wayne va devenir...
un jour ou l'autre.
Un jour ou l'autre, le Batman. Après, bon... La continuité peut encore changer des millions de fois entre-temps. Surtout qu'ils vont faire un reboot de l'univers, donc on va pouvoir oublier tout ça.
Avec 5 ou 6 scénarios différents, donc oui.
Voilà. Au niveau du dessin, on va peut-être pouvoir y venir.
Inégal.
Varié. Alors.
Inégal, en même temps, c'est logique, hein, justement, avec tellement de dessinateurs pour le numéro 700 que...
Voilà. Bon, vas-y, je te laisse nous parler des dessinateurs un par un. Nous avons donc d'abord Cameron Stewart sur la fin de l'épisode... mon micro qui arrête pas de descendre.
mais serre-le, je sais pas, fais un truc quoi, utilise tes mains. Oui,
donc,
d'accord.
Donc Cameron Stewart.
C'est bon, t'es sûr ?
Ouais, c'est bon.
Je l'ai pas trouvé bon déjà avant et je le trouve toujours pas bon.
Ok, ensuite on a Andy Clark qui arrive sur Batman et Robin. Andy Clark, il a un style très, très élégant, plein de petits traits. Ça m'a un petit peu fait penser à. Ah, ça y est, j'ai un trou de mémoire qui avait bossé sur Wildcat, Travis Charest. Ça a un petit peu pensé à du Travis Charest à l'enfant illégitime de Travis Charest et d'Adam Hughes, en fait. Ça te parle pas du tout.
Okay. Alors là, franchement, pas un brin. Super. Mais je te fais
Ouais, d'accord. Ouais.
Non, là, je trouve que c'est un peu mieux. Par contre, c'est surtout, voilà, tourne la page.
Et on a Guillaume Marsh, qui, sur le Batman 698. Bon, c'est clairement pas un auteur américain, ça se voit. En plus, il y a un travail sur la couleur, là, qui est à noter, quand même, qui est énorme. Tomeu Moré. T'as vu, j'essaie de faire un accent, je sais pas d'où il vient.
Je sais pas d'où il vient non plus, mais franchement, là, tout ce passage-là est splendide.
C'est un dessin très, très stylisé, avec vraiment des courbes sur les muscles, la façon de les représenter, très travaillé.
Très dynamique, vraiment dans le mouvement. C'est,
Et puis un travail sur la couleur qui est très subtil en fin de compte. Et surtout, on se demande si c'est du numérique, tellement la couleur est subtile.
Ouais. Et puis, tous les personnages ont vraiment une gueule, quoi. C'est. Il y a une finesse dans le trait, je trouve, qui est vraiment splendide.
Voilà, donc c'est Guillaume Arche. Ensuite, on a le Batman 700. Alors, le Batman 700, autant dire que il y a du monde et du pas mauvais monde, quoi. On a Tony Daniel. Donc, Tony Daniel, on est dans du classique qui s'occupe de la période Bruce Wayne. C'est du classique de Batman. Attends, je dis peut-être une bêtise. Ouais, ça. C'est du classique Batman. Ça passe bien, c'est dynamique. On a David Finch, un peu plus sombre. Frank Whiteley, qu'on avait déjà parlé, un peu plus stylisé, un peu plus brut son Batman. On est plus dans le Dark Knight au niveau du style.
Bah, plus baraque, quoi.
Voilà. Et on a
un peu plus carré.
Voilà. Et on a Andy Kubert. Andy Kubert. Qui est un auteur qui a beaucoup bossé chez Marvel et que j'apprécie pas mal, même s'il a un style, je trouve, trop lisse à mon goût. C'est propre, ça passe bien, mais c'est trop mainstream. On est trop dans de la bande dessinée classique. Je trouve que ça manque un peu d'âme comparé à d'autres dessinateurs qu'on peut avoir. Je te laisse sans voix.
Ouais, non, en fait, j'étais en train de penser à un autre truc. J'avoue que je t'écoutais, hein, mais j'étais en train de me dire quand même, de plus en plus, je trouve que moi, j'ai l'impression d'avoir un problème au niveau du format, en fait. Il y a certaines pages qui sont tellement riches
Ouais.
que tu mériterais d'avoir en fait un format plus grand pour aller plus dans le détail.
C'est vrai qu'il y a de plus en plus de décors dans les BD américaines, alors qu'au départ, quand ils
C'était voilà,
dessinaient
c'était assez.
vite, ils n'avaient pas le temps d'en faire. Et là, bah, les dessinateurs sont devenus lents, mais ils font des décors. Et c'est vrai qu'un format un peu plus grand pourrait bien passer. Surtout que là, on arrive à Batman et Robin avec le Joker en question. Et là, on a Fraser Irving qui arrive au dessin. Et là, c'est. Je te laisse essayer de définir le dessin de Fraser Irving.
Déjà, il a un choix d'angle qui est très cinématographique, quoi. T'as des plongées, contre-plongées, t'as des choix ensuite dans les couleurs qui sont, à mon avis, là aussi, il doit y avoir un taf quand même. Je pense qu'il doit vraiment le faire en lien parce que les couleurs et les dessins doivent.
Ah bah c'est facile, hein.
C'est le même.
Dessin, Fraser Irving.
Ouais, donc du coup,
Pas
voilà.
d'encreur, pas de coloriste, il fait tout.
Ben voilà. Parce que du coup, je trouve là, c'est tellement homogène. Je trouve que ça en est presque parfait, quoi.
Ah ouais, non, il y a un travail. Et puis même, il n'y a pas que le travail de. Souvent, on a le problème avec ces dessinateurs qui sont, je dirais, un peu trop talentueux dans le côté graphique. C'est qu'au niveau de la narration, ils ont tendance parfois à pêcher un peu, et là, pas du tout. Il sait bien utiliser ses cases, il sait utiliser des cadrages qui vont bien, des formes de cases qui vont bien, savoir éclater un peu son cadre et faire des cases un peu bizarres, genre triangulaires, etc., quand il faut. Il utilise très bien les gros plans ou les splash pages. Ça vaut le coup.
Franchement, oui. Là, c'est très, 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 très joli. Puis en plus, le scénar déchire. Donc, faut y aller.
Voilà. Petite chose, dernière chose à noter, sur le numéro 8, il y a une petite galerie d'illustrations à la fin, avec des grands auteurs, genre Bill Sienkiewicz qui fait un tour. Dustin Nguyen, que je trouve est génial comme dessinateur, parce qu'il est capable de faire un dessin genre très très sombre, noir et blanc, avec du rouge très très sombre, et un truc totalement psychédélique juste à côté, qui n'a rien à voir, et moi je trouve ça énorme.
J'ai envie de jouer ma phrase, un autre format. Et là, tu vas peut-être même lui dire, oui, mais tu vois, justement, c'est l'avantage du numérique. Tu pourrais zoomer, dézoomer, l'avoir en pleine page, petite page, aller voir le détail.
Non, parce que tu pourras jamais dépasser la taille de ton support numérique. Il faudrait avoir genre une télé, pour... une télé
Eh
tactile pour
bien, une
voir un
télé
truc en
tactile. Eh
géant.
bien, voilà.
Ouais, super. Bon, je crois qu'on a parlé assez longtemps de Batman et Robin.
Ouais, ça fait juste une demi-heure,
Batman
c'est bon.
Universe, c'était super bien, hein. Mais on va peut-être passer à quelque chose d'autre, genre Ultimate
Ultimate.
Captain America. Attention, c'est un hors-série de Ultimate Avengers. La dernière fois qu'on a parlé d'Ultimate Avengers, on a dit quoi déjà?
Pardon, désolé.
Alors surtout qu'en plus, là, on est dans du clonage patriotique. Voilà le genre qu'on a choisi. On a du mal à trouver les genres. En plus, la définition de genre pour Thio est assez, assez complexe. Mais on a dit que c'est du clonage patriotique. Ça donne pas envie, dit comme ça. Et pourtant, on a Jason Aaron au scénario. On a déjà parlé parce que c'est lui qui scénarise Sculpt, dont on a quand même dit plutôt du bien. Et au dessin, nous avons, là je suis en train de chercher en direct ce que j'ai oublié, Ron Garney. Ron Garney, que j'avais déjà vu sur je sais plus quoi, mais j'aimais pas ce qu'il faisait. Et là, ça passe plutôt pas mal. Parlons du dessin, je pense, pour commencer. Ton mot.
Filmique.
Très vif. Comment tu le définirais? Qu'est-ce que tu dirais sur ce dessin pour aller un peu plus en profondeur?
Bah, un peu plus en profondeur. Donc bon, je suis allé voir le film, hein, donc forcément ça.
Oui, t'as lu le truc
J'ai
le
voilà,
même soir que le
disons
film.
que j'ai vu le film. Wana, il me passe le comics. Hop, je rentre à la maison et juste avant d'aller au bed, hop, une petite lecture facile. Et ben oui, ça s'est révélé exactement très facile à lire. Ça ressemble beaucoup, je trouve. Enfin,
Plus dans les idées.
beaucoup de pauses quoi. T'as vraiment voilà, j'ai eu l'impression d'avoir des pauses de film en fait. Tu vois la pause patriotique, le grand héros qui met la droite, qui fait décrocher la tête aux méchants. Enfin,
Ouais, enfin bon,
le truc un peu caricatural quoi.
ouais, moi je trouvais qu'il y avait un trait vif parce que comment, Ron Garney a un ancrage très fin, très léger, c'est la couleur qui met beaucoup en valeur le dessin en fin de compte. Mais qui passe très bien, c'est clair, c'est précis, ça suit très très bien l'action. Et puis on est dans Captain America, il faut qu'il soit un petit peu imposant, qu'il en jette, c'est un bol américain, etc. Le scénario. ton mot.
Ah, mais elle est en fait, bon, patriotique, mais j'avais déjà trouvé le truc avant que tout le monde trouve
Clone Amérique.
Ouais.
Parce que Avenger, c'est la...
Putain, la vache.
Ouais, la merde, c'est bon.
Et la merde, ça fait...
Mon Jason Aaron est pas la moitié d'un con, et quand il nous fait un truc patriotique, il nous le fait pas comme la moitié d'un con. J'ai trouvé.
Ouais, mais c'est bon, quoi. Faut arrêter la roussucée de nous ressortir encore un super soldat du dossier, tac, et ouais, en fait, c'était le Captain America du Vietnam, et puis tiens, attends, hop, je sors le Captain America de la Corée, et hop, tiens, le Captain America de la Bosnie, et, oh, c'est bon, les gars.
Ouais, mais là, la question n'était pas là. Moi, je trouvais que c'était intéressant, c'est de se poser la question de qu'est-ce qu'être un patriote je trouvais qu'il traitait de façon très intéressante parce que le gars, en fait, l'histoire, c'est que... Oui, parce qu'on n'a même pas raconté l'histoire, tellement on est à fond dans notre truc.
Vas-y.
Eh bien, en gros, Captain America se trouve confronté à un gars essaye de l'attirer dans une sorte de piège. Ça commence, en gros, on voit que le mec va flinguer Captain America. Et on découvre que ce gars-là, c'est une sorte de pseudo-clone, parce qu'ils essayaient de lui refaire l'expérience du super-soldat, c'est un grand classique dans le scénario, pour l'envoyer au Vietnam. Sauf que là, ça a un peu foiré, c'était pas top, et le mec est un peu devenu fou. Et là, je trouve qu'au niveau du scénario, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a le patriote de la Seconde Guerre mondiale et le patriote du Vietnam. Et c'est vraiment pas les mêmes. On peut pas dire que le gars... du Vietnam, là, soit pas un patriote, le mec il y croit à son Amérique. Sauf que c'est l'Amérique des abusés du Vietnam, c'est l'Amérique des mecs qui ont perdu une guerre quand même, les Américains qui perdent une guerre. Ils ont tendance à pas trop le dire, mais ils ont perdu quand même, ils sont pris une dérouillée, les mecs. C'est jamais dit aussi clairement quand les Américains parlent du Vietnam.
Ça commence
à arriver. Mais c'est rare. Là, on a le mec qui défendait une idée qui était bonne contre le mec qui défendait une politique qui n'était pas forcément.
Oui, mais par rapport au message, tu vois, voilà, c'est beaucoup de bruit pour rien, quoi.
Ouais. Ah non, moi, j'ai trouvé qu'il était assez bien foutu parce que ça remettait ce patriotisme dans le contexte. C'est-à-dire, j'ai toujours eu du mal, moi, avec Captain America parce que, justement, c'était le super américain, super bien, etc. Sauf que là, le fait qu'il était sorti de sa cryogénie il n'y a pas longtemps fait que ses valeurs ne sont pas les valeurs de notre époque et j'arrive à les comprendre.
Oui, mais j'ai vraiment eu l'impression qu'il a défini tout le scénar sur la page où tu as la tirade de Captain America. Quoi.
Oui.
Tu vois, il a eu l'idée de la tirade du Captain America et s'est dit...
Donc
tiens,
oui, Captain America en fait, se fait braquer et il commence à faire une tirade.
Oui, enfin, on spoil, on dit quand même qu'à la fin, il s'en sort.
Oui, non, mais on se doute qu'il va s'en sortir. Après, c'est dans quel état ?
Voilà. Et en fait, voilà, j'ai l'impression qu'il a eu, l'idée de cette tirade du Captain America. C'est pas celle-là, c'est un peu avant, quand il lui a mis la tôle. Et tu te dis, ouais, il a eu cette idée-là. Il a dit, bon, maintenant, il faut que j'arrive à habiller ça.
La vraie idée qu'il y avait derrière, c'est de dire, OK, le but du méchant de l'histoire, c'est de faire, de faire que Captain America soit désabusé. Il essaie de lui faire comprendre, tu sais... c'est pas bien forcément ce qu'on fait. Enfin, il essaie d'en faire une sorte de soldat désabusé. Alors que c'est pas le personnage. Il essaye de lui faire changer son opinion. Il y va fort, hein, torture, violence et tout ce que tu veux, mais il essaie de le faire changer d'opinion. Il essaye pas de le battre, de le tuer ou de quoi que ce soit. Je veux dire, il essaye pour y arriver facilement. Dans le scénario, on voit qu'il lui a bien foutu une bonne dérouillée quand même. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de scrupules. C'est le Vietnam. Pas de scrupules. Mmh. Captain America, Seconde Guerre mondiale, plus gentil, c'est non, le beau mais, gentil, non, mais, qui fait des posters. Et...
Non, j'entends bien les arguments, mais voilà, je suis un peu... Enfin, dans ce que tu dis, je trouve ça super intéressant, mais je trouve que ça a manqué un peu de pêche et d'originalité.
Ok, je pense que le mieux, c'est que nos auditeurs se fassent leur avis. Ça coûte 5,40€, c'est en kiosque, ça doit se trouver pas trop difficile. Ouais, un peu juste là, courez pour essayer d'en trouver. C'est pas très cher et ça vaut le coup, je pense, de lire, ne serait-ce que pour se poser ce genre de questions. C'est comme un bon moment au final ou...
Oui, oui, oui.
Mais bon, c'est pas non plus. Oui.
Bah, c'est comme le film, c'était un film popcorn. Ouais. C'est un peu ça, quoi.
D'accord. Nous arrivons maintenant à un gros morceau. À un très très gros
très,
morceau.
Un très gros morceau, un pavé. Un pavé dans la mare.
En fait, deux pavés. Nous arrivons sur le crossover de Daredevil. Vous le savez, je suis un grand fan de Daredevil. J'ai été super content de tout ce que j'ai lu sur Daredevil ces dernières années, car pour moi, c'était la série Marvel qui n'avait pas de bas. Il y avait des milieux, mais pas de bas. Et donc, on arrive maintenant au crossover Shadowland. C'est un crossover qui est écrit par Andy Diggle, le nouveau scénariste de Daredevil, et dessiné par plusieurs dessinateurs, Billy Tan pour la série Shadowland, et Marco Cecchetto et Roberto Della Torre pour les numéros de Daredevil classique. Avant d'attaquer le genre, je vais parler du choix éditorial. D'ailleurs, je vais te laisser parler du choix éditorial, parce que je pense que tu as dû toi aussi te rendre compte de joie et bonheur de mettre ses doigts sur les pages pour les tenir.
En fait,
donc on a un Marvel Heroes Extra qui contient la mini-série Shadowland.
Mais
et ensuite, on a
Shadowland, Daredevil. Et donc là, en fait, il faut être dans un monde où on est un poulpe. Et il faut pouvoir réussir à tenir 10 pages d'un côté, en lire 5 sur l'autre bouquin, pour revenir ensuite lire les pages suivantes dans le premier.
Ouais, d'un autre côté, tu as déjà lu des livres dans le héros.
Oui.
Mais donc tu sais faire.
Non, un livre.
Avec un livre. Avec deux, c'est plus compliqué, c'est vrai.
Parce que ce n'est pas deux livres dont vous êtes le héros, tu vois. Ouais, non, ça, franchement, c'était. Je reste très poli, mais voilà, c'était totalement.
Bon, en gros, Panini a décidé de publier la mini-série Shadowland en intégralité dans un Marvel Heroes Extra, qu'on trouve en kiosque, à 5,60€. Et la série Daredevil, les numéros classiques, dans un 100% Marvel, le numéro 22, Shadowland, à 12€, que tu trouves en librairie. Problème, bah, les deux séries se passent en parallèle. Et donc, il faut commencer par. À la fin du premier épisode de Shadowland, donc 22 pages plus loin, on a un super truc qui fait une révélation, un événement terrible qui est important pour l'histoire. Si on commence à dire directement le Daredevil, eh ben, on est un peu spoilé de suite et on n'a pas la progression logique de l'histoire. Et c'est un peu dommage.
Est-ce que ça n'aurait peut-être pas valu le coup qu'ils se sortent un peu les doigts et qu'ils fassent un intégral tome, enfin, un tome intégral peut-être un peu plus cher, juste pour cet événement-là.
Ouais, ou bien, tu sais, les gros qui font les Marvel, les trucs sur du papier chiotte, là, etc.
Sans parler de papier chiotte, mais je vois, enfin.
Les monsters, les Marvel monsters.
Est-ce qu'il n'y a pas un mec qui travaille la rédaction qui aurait pu se dire, les gars, franchement, il faut qu'on fasse un truc.
Parce que là, le problème qu'on a, c'est que dans la série Daredevil, on a un numéro 22 qui, si t'as pas Shadowland,
il est pourri, quoi.
Il est limite imbitable, quoi. C'est...
J'allais dire impinable, mais.
Et on est dans le même champ sémantique.
C'est le mot que j'ai pas voulu dire tout à l'heure, tu vois. Mais voilà, c'est ça. C'est ça l'idée.
Voilà. Scénaristiquement, quel mot as-tu utilisé? Bon, allez, le temps que tu cherches, moi j'ai dit bof.
Inégal. Pardon, scénaristiquement.
Oui.
Bordel.
Bordel, oui, bah bordel parce qu'on part d'un numéro à l'autre. Après, c'est plutôt bien construit.
C'est plutôt bien construit, mais ça reste quand même compliqué, quoi. Moi j'ai trouvé ça. Enfin, voilà, j'ai trouvé que ça manquait un petit peu de transition, quoi.
Surtout que c'est un crossover qui va nous mettre tous les héros urbains de chez Marvel. Donc on a Luke Cage,
Iron Fist,
Ghost Rider, même dès que je connaissais plus, genre Shishang ou Shang-Chi ou je sais plus quoi.
Ouais, mais attends, enfin, là on est plus sur. Enfin, c'est du héros asiatique, ça.
Mystic Knight et compagnie. Voilà. Comme d'hab, on a oublié de raconter quand même le début de l'intrigue. Parce qu'on est un peu nuls. Bon. En résumé, Daredevil est devenu le chef de la main dans les épisodes précédents, que tu avais bien apprécié d'ailleurs. Hein. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que petit à petit, il commence à sombrer vers le côté obscur de la main, car il est forcément manipulé par une sorte de démon qui le fait devenir presque méchant. Et il se construit une sorte de méga dojo qu'il appelle Shadowland au milieu de Hell's Kitchen. Et il transforme Shadowland, Hell's Kitchen en une zone de non-droit où il prend le contrôle contre les criminels. Et là, tous ses copains se disent c'est un peu facho ce qu'il est en train de faire, il faudrait qu'on essaie de le calmer.
C'est un peu facho, mais quelque part. Tu connais cette discussion déjà.
Ouais. Vas-y, continue.
Dès que tu donnes un peu de pouvoir aux gens, finalement, ils se disent que. Putain, quand tu taffes et que tu mets un peu d'ordre dans les choses, que tu essaies de construire un truc et que t'as un blaireau qui arrive et qui tac ta tour, t'as envie de lui casser la bouche, c'est tout.
Sauf que, pas de bol. disons que les gens ont peur après dans la ville. Hein. Je veux dire, ils se baladent plus. Le but, ça aurait été que les gens se baladent tranquillement dans Hell's Kitchen. Non, là, maintenant, les gens se baladent en jetant des yeux partout, parce qu'il peut y avoir des ninjas qui leur sautent dessus à n'importe quel coin de rue.
Si tu fais rien, t'as pas de soucis.
Ouais, voilà. Dernier point qui est intéressant, c'est que le caïd se propose pour donner un coup de main à tous les autres héros qui veulent essayer d'aider le pauvre Matt Murdock qui a pété un câble. Mais il n'essaierait pas de genre reprendre le contrôle de la pègre locale ?
Non, pourquoi ? C'est un mec qui travaille pour l'intérêt commun, oui. Toujours.
Bref, on est sur une histoire qui moi, m'a un peu déçu. On revient sur de la problématique super-héros classique, etc. Mais le côté sombre de Daredevil, ça m'a un peu déçu. Quoi. Donc on a Elektra qui revient, on a... Ah oui ! Alors ça a dû te faire le même truc. Marie-typhoïde. Ça t'a pas dû te choquer parce que t'as pas dû lire les vieilles traductions dans les versions intégrales.
Ah, c'est les vieux trucs que tu passais sur le papier à chiottes et que tu voulais que je relise. Bah, mais ça, je les ai pas relis, rappelle-toi.
Ouais, bravo. Ceux qui étaient dessinés par Romita Junior.
C'est ça.
C'est ça que j'ai. Super, quoi. Ouais, et ça, en gros, tu avais. À l'époque, ils avaient traduit Marie Typhoïde par Typhoïde Marie. Quand tu passes de Typhoïde Marie, qui a un peu la classe, tu vois, dans la façon de se dire Marie Typhoïde, tu te demandes même pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de changer la traduction.
Je te pose une question. C'était pas un personnage des crados, ça.
J'en sais rien.
Marie Typhoïde, enfin, ce poète, quoi.
Ça sonne, ouais. Mais je veux dire, Typhoïde Marie, c'est un nom qui sonnait vachement bien. Marie Typhoïde, ça fait ridicule, quoi. Enfin, bon, là, il y a un problème de traduction qui m'a un peu choqué. Bon. C'est un crossover qui est un peu faiblard au niveau de l'idée, au niveau de la thématique, qui m'a pas mal déçu. Ça relance le personnage, disons que, ouais, à la fin de ce crossover. Ouais.
Ça le relance, mais ça le relance de manière classique.
À la fin de ce crossover, on sait qu'il s'est passé quelque chose qui va changer le personnage d'Daredevil. Ça va se passer différemment. On sait qu'il y a un nouveau Daredevil. Mais. J'attends la suite, quoi. Alors, est-ce qu'on m'a dit, est-ce que les gens qui ont lu les traductions des derniers, enfin les VO des derniers, ça redevient super sympa. J'ai hâte que ça redevienne super sympa parce que je t'avoue qu'ils ont sorti un Marvel Monster sur le thème Shadowland et un autre truc avec toutes les séries parallèles qui donnent le truc sous un autre angle, mais en fait, je m'en fous complètement, ça m'intéresse pas du tout.
Souvent sur les crossovers, de toute façon, t'as quand même. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup plus de déceptions sur les crossovers que de plaisir, quoi.
Ouais.
Oui, cite-moi un crossover vraiment qui était
plus. Civil War ?
Oui, ben ouais. Enfin, non, mais Civil War, ok. House of M.
Ouais. Bon, il y avait des idées sympas.
Mais... Il y avait des idées sympas, mais ça a été traité tellement bien. Enfin, encore une fois, de manière tellement bordelique que ça n'a pas eu envie de le lire. Le suivant, ça a été.
Oui, et puis, faut être franc, le crossover avec les héros urbains de Marvel, c'est les héros mineurs de Marvel. Quoi.
Ben, surtout,
à part Spider-Man.
Ben, non, surtout en plus que tous ces héros-là, c'est à deux solutions, quoi. Soit t'as 40 ans et tu les as déjà lus avant, soit t'en as 15-16 et t'en connais qu'un ou deux. Hein.
Shang-Chi, je veux dire, je sais pas d'où il sort, quoi. Iron Fist, ça va à la rigueur, parce que j'avais lu les derniers qui étaient super sympas. Bon. Le dessin.
On l'a pas déjà dit ? Non, j'avais dit en fait, parce que je t'ai trompé, j'avais dit inégal.
Ah, c'était quoi l'autre scénario ?
C'était bordel.
Ah oui, inégal. Le dessin, bof. Pourquoi ? Parce qu'en fait, y a deux dessinateurs principaux, enfin deux styles de dessin. On a la série Daredevil avec Marco Cecchetto et Roberto Delator qui ont des styles sombres, très urbains,
qui le font très très bien avec le scénario.
Qui font penser à tout ce qu'on a eu avec les autres dessinateurs avant, avec Mahalev, avec Lark.
Mais je trouve enfin.
Qui sont dans le même ton.
Dans le même ton, voilà.
Voilà. Et on a. Billy Tan, c'est quand même un enfant des studios Topco, donc un enfant des studios de un des clones de Mark Silvestri, quoi. On est dans du super-héros super classique, avec des mecs qui ont des muscles, tu sais même pas d'où ils sortent, des poses improbables, des tonnes de ninjas qui sautent dans tous les sens.
Il va en mettre plein la vue à chaque case.
Ouais, non, mais c'est bien, mais c'est pas Daredevil, quoi. C'est pas l'univers de Daredevil qui, pour moi, doit être plus urbain, plus sombre, plus terre à terre. Voilà. Bref, Shadowland, j'attends la suite pour être convaincu. Enfin, j'espère que Daredevil, après des années de réussite, ne va pas sombrer. Est-ce que tu es du même avis ?
Malheureusement, je dirais qu'un jour ou l'autre, il va falloir qu'il sombre.
Ouais, mais on n'a pas envie, parce que moi, c'est un personnage
oui,
fétiche.
Oui, je suis d'accord. Voilà. Mais, écoute, Batman aussi, c'était un truc fétiche. Batman et Robin m'ont un peu déçu au début. Là, je trouve que ça commence à monter en puissance.
C'est bien écrit, en fin de compte. Tu te rends compte qu'il avait bien posé ses billes.
Mais... Oui, mais est-ce que du coup, à un moment...
Oui, enfin là, quand tu as fini de Crossfire Shadowland, les billes, elles sont toutes posées, c'est fini, quoi.
Oui, mais... Bah, c'était bien au début, voilà, il dirige la main, pour une fois ça devient un peu sympa, il réussit des trucs, et puis bon, finalement... Enfin bon, passons à la suite. Et quelle suite ?
Ah, si on faisait pas du comic.
On change un peu, allez, on fait du manga. On augmente notre pourcentage de manga, parce qu'on n'en fait pas beaucoup, et donc, allez.
C'est mal quand même, hein, parce qu'il y a beaucoup de bons mangas, et qu'en fait on n'en lit pas assez.
Bah ouais, mais oh, ça va le budget, et puis en même temps j'ai pas les idées, moi, en manga. Bah,
non, on pourrait dire Naruto, pareil, c'est super sympa, ou One Piece. Hein, on n'a que 50 tomes à rattraper.
Oui, mais le problème, il est là, c'est que quand j'arrive à voir un stand de manga, je dis, c'est pire qu'un stand de BD, quoi.
Oui, t'es perdu. Surtout que comme il y a un tome qui sort tous les deux mois, t'es vite largué.
Voilà, non, c'est pas possible. Enfin bon, plutôt le numéro 8.
The Ultimate, plutôt. Par Naoki Urasawa. Et là, en fait, on est des gros boulets parce qu'on a un peu oublié d'avoir la BD sur nous. En fait, Tio est un gros boulet parce qu'il a oublié de la ramener. Hein, voilà. Hein.
Donc, vous notez, c'est lui qui a fait la première attaque. Donc, One Eye Pied, d'accord. Il n'a pas de souci au niveau temporel. Il poste avant même la bonne date.
Oui, non, mais là, c'est bas. Là, c'est bas. C'est totalement hors contexte. C'est totalement hors contexte. Comme
attention,
attaque.
Nous faisons une émission. Oui, vous êtes le 11 septembre. Hein. Mais attends, je viens de la télécharger.
Non, celle-là sera le 11 septembre. Hein. Là, vous nous écoutez. Vous êtes au moins le 11 septembre, peut-être le 12 si vous écoutez ça le lendemain, mais vous êtes au moins le 11 septembre.
C'était gouette combien ? 7 jours quand même.
Ah hein. Oh, ça va quoi !
Le mec il poste une semaine avant, forcément.
Donc plutôt numéro 8 de Naoki Urasawa et plein d'autres gens qui ont travaillé avec lui, dont un co-scénariste. D'après la bande dessinée Astro, le petit robot, Astro, le robot le plus fort du monde, par Osamu Tezuka, le dieu du manga. Enfin, j'allais dire dieu vivant, mais
l'un
oui,
des dieux.
voilà, l'un des dieux.
Il fait partie du Panthéon.
Voilà, disons qu'après avoir lu Une vie dans les marches, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que lui. C'est surtout ça.
Mais c'est pour ça que tu dis, c'est un panthéon, ils sont plusieurs. Et chacun a mis sa petite pierre à l'édifice.
Et c'est la fin de cette série. Un manga qui finit en 8 tomes, ça nous change ce que je disais des One Piece et des Naruto en 52. Et on est dans de la philopolitique. Bon allez, rappelle-nous où on en est et ce que raconte ce tome de Pluto.
Alors on se rappelle que donc il y a Pluto. Pluto est un robot qui détruit tous les robots les plus forts du monde, qui étaient au nombre de 7, 7 ou 8.
C'est ça.
7. 7. Mmh. Et donc, on a bien avancé, on a appris pas mal de choses.
Il les a tous tués,
dont Epsilon, le dernier, qu'il a tué dans le tome précédent. On sait que ça a un rapport avec la guerre en Perse, justement, donc, de Darius IV.
14, non ?
Darius XIV,
peut-être. Ouais, enfin,
bon, qui avait donc soi-disant des armes de destruction massive et qui avait été détruit donc par c'était une sorte d'Américain.
C'était oui des États-Unis de Thracia.
De Thracia, ça ressemble un peu. Ouais.
C'est les États-Unis, ouais. C'est les États-Unis de Thracia.
De Thracia.
États-Unis.
Et donc voilà fin de l'histoire. Donc on va pas spoiler non plus la fin.
Bon, on peut dire allez, vous êtes arrivé jusqu'au vous avez lu le 7, vous arrivez au 8. On peut dire que Astro non. revient quand même.
Oui, Astro revient quand même. Mais en même temps, on le savait déjà quand Astro est mort.
Ouais, on s'en doutait, mais... Disons que si tu lis la bande dessinée sans connaître du tout Astro le petit robot, tu pourrais t'attendre à ce que peut-être il ne revienne pas. Bon, maintenant, Astro le petit robot est une série classique, on peut s'attendre quand même à ce que ce héros ne meure pas.
Ouais, on pouvait aussi s'y attendre, parce que c'était quand même le seul qui survivait en un seul morceau au combat contre Pluto.
Ouais.
Quelque part, ça pose son gars.
Donc, et là, on rentre dans quelque chose d'assez complexe quand même, scénaristiquement. Quel est ton mot pour le scénario ? Attends, on va parler du dessin d'abord, parce que ça sera. Je veux dire, ça n'a pas beaucoup changé depuis le dernier tome.
Bah, le dessin, moi, c'est égal, quoi. Il est toujours sur le même niveau. Il y a
moi,
pas
je
de...
dis vrai. Je trouve que ces personnages, ils ont l'air vrais. On y croit.
C'est-à-dire, tu y crois.
Il y a un côté réaliste, mais on arrive à s'attacher à eux, à se les imaginer en vrai. Le manga a souvent, un peu dans le style graphique un peu simplifié, qui crée cette distanciation aux personnages. Et Urasawa a un style réaliste pour du manga. Je dirais les personnages peuvent avoir des nez un peu enfin, avec des formes un peu européennes, etc. C'est pas les petits nez tout mignons, pointus qu'on peut avoir classiquement.
Bah, c'était le même Tezuka. Hein.
Oui, mais Tezuka, il avait plus le côté gros nez, on va dire. On était plus proche d'un Astérix au niveau des nez.
Un nez à la gauloise, quoi.
Voilà. Là, on a un côté réaliste et je trouve que c'est vrai. On s'attache aux personnages parce qu'on arrive à croire à leur existence quelque part. Ouais, tu fais une moue dubitative.
Ouais, non, écoute, j'ai pas été tant touché par le dessin. D'accord. Pour moi, j'ai trouvé, voilà, c'est resté toujours sur le même niveau. C'est vrai qu'on voit beaucoup plus sur cet épisode-là Astro.
Ouais, puis la narration aussi, la façon dont il met en scène, là, qui est quand même importante.
Oui, parce que je dirais, sur les tomes précédents, t'avais vraiment l'impression d'une course-poursuite, surtout entre Geshit et Pluto, où ça allait vite, quoi. Tu sentais vraiment qu'il y avait des événements qui rythmaient le truc, et il fallait qu'on avance dans l'enquête pour trouver vraiment ce qui se passe.
Oui, là, l'enquête est finie.
Là, l'enquête est finie, et d'un coup, j'ai eu l'impression d'une sorte de...
Ouais, de détente.
De détente, de calme, et pour tout expliquer, quoi.
Oui, parce que ça, c'est l'épisode de l'explication. Et avec une fin,
ouais.
C'est classe. Moi, le scénario, donc.
Alors là, c'est mon avis personnel. Hein.
Ton mot.
Mes mots. Ouais, je suis bien, je respecte rien.
Mes mots.
Chef-d'œuvre en péril.
Perdu. Alors, je vais vite expliquer pourquoi moi, perdu. Bah parce que j'ai relu ce tome-là, et en fait, il faut que je les relise tous, parce que bon, voilà, je dois avoir une mémoire de poisson rouge, hein. On en parlait sur une Red Bullet, c'est le même problème. C'est que je suis un peu perdu avec tous les personnages, j'arrive plus trop à savoir qui est qui. Je sens que c'est super bien mené, que j'avais des indices tout du long que j'ai pas forcément su voir, et je suis un peu largué, en fait, tout en appréciant grandement ce scénario, parce que je sens que c'est génial. J'ai cette intuition que tu peux avoir en lisant quelque chose, que c'est génial, mais... Il me manque des bouts, parce que j'ai oublié des passages des épisodes précédents, et il me manque des bouts pour rassembler tous les éléments du puzzle, et je suis un peu perdu. C'est mon problème. Il faudrait que je relise la série en entier, je pense, pour l'apprécier complètement.
Bon, il n'y a que 8 tomes, c'est l'avantage.
Oui, c'est l'avantage, oui. Voilà. Toi, chef-d'œuvre en péril.
Alors, chef-d'œuvre, parce que voilà, je suis arrivé à la fin du tome. Voilà, tu t'es là, tu... Tu vois, j'ai pas refermé le bouquin, j'ai juste posé les mains, et tu fais « Waouh ». Après, du coup, c'est vrai que j'ai continué. Tu as une petite explication, justement, de Urasawa sur son enfance. Pourquoi est-ce qu'il avait choisi cette aventure-là? Pourquoi est-ce que, personnellement, ça le touchait?
Non, c'est le co-scénariste.
C'est le scénariste qui écrit.
Et
du coup, ça, c'était super. Enfin, voilà, du coup, ça met encore un éclairage là-dessus, quoi. Mais,
oui, l'histoire à la fin, la post-face, c'est vraiment très sympa, j'ai trouvé.
Mais voilà, en péril, parce que, justement, j'ai peur que, maintenant que c'est fini... Bah voilà, les critiques vont se déchaîner et vont trouver tout ce qui va pas, tout ce qui plaît pas.
Nous sommes les critiques. Qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui plaît pas, qu'est-ce que toi tu trouverais à dire? On est les critiques aussi quand même.
Moi je trouverais rien à redire, mais je sais que voilà, il y en a qui trouveront sans doute des choses qui leur plaisent pas. En même temps, c'est normal, hein, mais voilà, je trouve que j'ai trouvé ça tellement génial que voilà, je me dis qu'il y a un péril parce qu'il y a forcément qui vont
dire. Allez, c'est la troisième série du Urasawa qu'on lit en entier. On a lu Monster, on a lu 20th Century Boy avant. Comment tu le situerais par rapport à ces deux séries?
Je dirais peut-être que c'est la plus personnelle, en fait.
Pourtant, c'est celle qui n'est pas de lui, entièrement.
Ben ouais, mais je pense que c'est quand même celle qui lui tient le plus à cœur.
Ouais, parce que c'était nostalgie, du fait de travailler sur des personnages qui sont emblématiques.
Parce que c'est, je pense, un peu sa construction à lui en tant que... en tant qu'enfant et puis après en tant que dessinateur qui fait que dessinateur scénariste qui fait qu'il a eu
ok bon et eh bien
voilà 8 tomes vraiment c'est acheté, c'est à faire.
Ouais, c'est une très 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 bonne série qui autant graphiquement que scénaristiquement vaut le coup et qui fait beaucoup réfléchir. Et bien on arrive sur notre intégrale.
Yes,
et on parle de Jason Bryce. Par Jovanovic, je pense que ça doit se dire Jovanovic parce qu'il y a une sorte d'accent sur le C.
Sans doute.
Et Alcant, ça doit se dire Alcant parce qu'il n'y a pas d'accent nulle part.
C'est chez Dupuis,
c'était Collection Repérage pour les premiers tomes. Puis comme la Collection Repérage n'existe plus, pas Collection Repérage pour le dernier. C'est en 3 tomes, c'est une série complète. Mais de quoi que ça nous parle, Jason Bryce?
D'un enquêteur.
Ouais. Ça donne super envie, dit comme ça.
Un enquêteur un peu fantastique. Ouais, c'est polar fantastique, on
a dit. C'est-à-dire fantastique. Il a les yeux qui me rient, il est super sympa.
C'est ça, et quand il pète, ça fait des boules de feu.
Oh, il est fantastique.
Il est fantastique.
Non, vas-y.
Non, mais disons que les histoires sont un petit peu... d'histoire d'esprit, d'histoire
Tu l'as lu il y a plus longtemps que moi, donc je vais pas résumer. Ah, t'as l'air largue.
Tu l'as toujours parce que
moi je viens de les relire.
J'ai passé l'intégrale il y a plus d'un mois.
Ouais, moi je viens de les finir, donc c'est plus facile pour moi. Donc Jason Bryce est un détective privé qui est spécialisé dans la dénonciation des faux médiums et compagnie. Donc il les cherche, il les trouve et il les disculpe parce qu'il connaît leurs trucs, leurs techniques. Et en gros, sa spécialité, c'est de montrer que ce qui a l'air d'être occulte ne l'est pas. Sauf que pas de bol, il se retrouve confronté à une affaire occulte. Qui a quand même l'air pas mal de l'être. Il doit aider une jeune femme qui s'appelle Mademoiselle Pendragast. Pour dire que je l'ai pas lu, j'ai lu il y a pas longtemps, je me souviens même des noms des personnages.
Pas mal.
Qui en gros a trouvé un carnet qui raconte des événements qui ont lieu petit à petit et qui mèneraient à la mort de cette jeune femme. Et donc lui, il est là pour essayer de... Bah, son but, c'est de démontrer que c'est quelqu'un qui a trouvé le carnet, que c'est un canular, enfin trouver l'explication logique à tout ça. Le carnet aurait été écrit par un certain Morgan Fatoy, un écrivain qui est mort il y a quelques années. Et apparemment, ce mec-là avait une sorte de don, parce que tout ce qu'il écrivait se réalisait. Par exemple, il avait parlé de l'histoire d'une sorte de grand paquebot insubmersible avec un certain nombre de passagers qui seraient pris un iceberg. Il avait réussi.
Je suis le roi du monde.
Non, tu peux lui hurler plus fort, les gens vont pas t'entendre.
Ouais, mais non, parce que j'aime pas, je suis pas Leonardo quand même.
Ouais. Donc bon, en gros, il avait prédit le Titanic et compagnie. Et donc, bah, Jason Bryce commence à enquêter là-dessus. Et petit à petit, plus il avance dans son enquête, va se retrouver.
Plus les gens meurent.
Plus les gens meurent, ouais, déjà. Et lui va se retrouver coincé au milieu d'un imbroglio, enfin il va être piégé parce qu'en fait on va tenter de le piéger pour le faire passer pour un criminel alors qu'il ne fait que enquêter pour comprendre d'où vient l'histoire. J'ai vaguement résumé l'amorce, je vous ai pas tout raconté du premier tome, mais quand même le premier tome comme tout premier tome sert à poser un peu les bases. Et bien sûr l'histoire forcément va avoir un lien avec le héros, assez proche. Avec son passé mystérieux.
Que lui-même ne connaissait pas.
C'est du polar fantastique, voilà, pour notre genre. Classique. On est proche de ce que pouvait faire, on va dire, un Edgar Poe, avec quelques idées lovecraftiennes. C'est... Voilà. Petit détail qu'on a omis, ça se passe dans les années 20. Ça peut avoir son importance au niveau de l'ambiance. Ouais. Qu'as-tu pensé du dessin ?
Classique.
Convenu.
Bah ouais. Mais là, on est vraiment dans la franco-belge avec un truc carré, quoi. C'est,
bon, dans la franco-belge réaliste, quand même.
Oui, hein, mais c'est pas...
assez réaliste.
C'est rien de fantastique. Ça, c'est pas moche, c'est efficace.
C'est les couleurs qui mettent le plus, qui aident le plus à faire les ambiances. Il y a un bon travail de l'ancrage, c'est efficace. Mais bah, moi, je trouve que le héros, il manque de charisme, quoi. Il est... Je veux dire, il a rien de spécial, il a pas, enfin, je sais pas, il aurait une cicatrice sur l'œil ou je sais pas quoi, on s'en serait souvenu, quoi. Mais je trouve que c'est un héros qui est plat.
Pourquoi ?
Je sais pas, graphiquement, esthétiquement, c'est un blond aux cheveux courts, quoi. Il a rien de spécial. Tu prends n'importe quel héros de n'importe quel BD, il y a un détail, un truc, qui va faire qu'on va se souvenir de son style. 13, il va avoir sa mèche blanche. Thorgal, sa cicatrice. Tu vas avoir Lanfeust, ses cheveux qui montent quand il utilise ses pouvoirs et son air de niais.
Valérian, il a quoi ?
Il a
l'Orline, ok, ça va, merci.
Valérian, il a une coupe au bol.
Ah ouais.
Attends, je suis désolé, une coupe au bol, c'est graphiquement, c'est quelque chose de bien particulier.
Grand Schtroumpf, il a quoi ? Vas-y, non.
Il est rouge.
Ah, okay.
C'est le seul Schtroumpf rouge, quand même.
Mauvaise foi, man.
Non, mais je trouve qu'il n'a pas... c'est pas un personnage qui va me marquer, quoi.
Non, c'est pas un personnage qui marque, mais c'est un personnage qui t'attache.
Ouais. Ouais, ouais, j'ai du mal à m'attacher à lui. Bah, on va y venir, justement. On va parler du scénario.
Moi, j'ai... Voilà, c'est toujours deux mots, hein, parce que sinon, c'est trop chiant, parce que ça coûterait.
Tricheur.
Insoutenable
myrte, d'accord.
Insoutenablement entendu.
Classique.
Ben voilà. C'est bon, alors c'est clair que
d'habitude dans les intégrales on parle de trucs qui nous ont vachement plu.
Eh bien, les deux premiers tomes, enfin le premier tome m'avait enthousiasmé.
Ouais, t'étais à fond.
Ouais, j'étais à fond parce que voilà, tu arrives à la fin du tome et tu fais.
Est-ce que le gars il a un vice, le héros il fume de l'opium, tu vois, dans les années 20, le héros qui a un vice qui fume de l'opium, le truc trop de dingue,
il va avoir le dragon,
trop de gueudin quoi.
Et du coup voilà, fin du premier tome c'était, j'étais au taquet. Fin du deuxième tome, je me suis dit ouais, je pense que là ça va sentir la ressucée. Et fin de l'intégrale, on fait ok, je m'en doutais. Mais le pire c'est que pour autant j'avais quand même vachement envie de lire le troisième tome.
Oui, c'est vraiment c'est le roman populaire, le truc que tu lis avec plaisir, tu as envie de connaître, savoir comment ça finit. Mais,
même si pour autant tu l'as déjà vu.
Même si c'est un peu déjà vu, parce que ça utilise les ficelles un peu grosses, mais plutôt pas mal.
Plutôt bien, c'est plutôt bien utilisé.
Mais... Ouais, j'ai pas eu beaucoup de surprises. Hein. Ils utilisent quand même la ficelle majeure de Star Wars.
Je suis ton père.
Je veux dire, excuse-moi, mais à partir du moment où dans une BD je lis « Je suis ton père », moi je suis désolé, tout de suite, je décroche, je suis largué, c'est plus possible.
Oh l'autre, il critique Star Wars.
Non, Star Wars ça allait, c'était les premiers, tu vois. Enfin non, c'était pas les premiers, mais en tout cas, ça allait, j'étais jeune, j'étais naïf, j'étais insouciant. Là, « Je suis ton père ». Oui, mais ça va quoi. Je m'en étais pas douté 15 000 ans avant.
Ouais, mais oui, mais justement, c'est à ce moment-là que tu sembles l'entendu, quoi. Mais pour autant, sur les deux premiers tomes, je trouve que le charme, il agit.
Ça reste bien écrit, ça reste un polar sympa, là, on le suit de façon agréable. C'est quelque chose de cool. Après, c'est la collection Repérage. Qu'est-ce qu'on connaît de la collection Repérage ? Vas-y, t'as des titres, toi, en Repérage ? Ah, ça y est,
voilà. Il n'y a pas Bloch qui était dans Repérage ?
Jérôme Bloch, il y avait Soda.
Soda, tu vois. Et
on est dans des choses qui sont des... Oui, mais il y avait Kogaratsu qui était aussi dans Repérage.
Je sais ce que c'est.
On est dans des choses qui sont assez classiques, mais je trouve que Jason Bryce est aussi dans cet esprit un peu classique, mais ça manque un peu d'âme, de choses qui fassent que tu vas t'attacher à la fois au personnage et à la BD. Oh, il croise une prostituée qui est malheureuse et il se la tape. Le coup de la prostituée malheureuse que le héros se tape. Oui, je fais des grands gestes, des bras au-dessus de la tête, je vous le dis, parce que c'est... Ouh, je fais genre...
Enfin, c'est une chose visuelle, après il me reproche, moi, de faire des grimaces, quoi.
Non, mais moi, je parle en même temps de faire des choses visuelles. Voilà, non, mais je veux dire, ça va, quoi. Elle a un enfant dont elle va s'occuper, la pauvre, c'est pour ça qu'elle se prostitue.
Ok, non mais vas-y, crache dessus. Mais
non, mais justement, c'est ça qui est dur, c'est qu'on peut difficilement cracher dessus parce que c'est plutôt réussi dans le genre. C'est super classique, mais ça n'a rien d'exceptionnel.
Ça n'a rien d'exceptionnel, mais pour autant, ça fonctionne. Ça fonctionne, même si la fin est un peu décevante.
La fin est un peu décevante, on s'attendait presque à une suite quelque part.
Il y aura une suite, je pense. Vu la fin, ça, je pense qu'il y aura un nouveau cycle.
Je ne sais pas, il est paru il n'y a pas longtemps, hein, le troisième.
Ouais.
Mais ouais, non, je. Voilà. Donc Jason Bryce chez Dupuis, au coup de DU, je ne sais combien, 6. DU06.
Ça fait du pas cher.
Voilà.
Pas trop cher.
Ouais, c'est du prix classique comme la BD, en fait.
Ouais. Donc voilà. C'est presque 100 balles, quoi.
Le meilleur du mieux. Dans ce que nous avons.
Bon, alors là, c'est facile.
Oui, non, là, c'est vraiment facile.
Franchement, là, je veux dire, tu nous... bon, alors, les gars, vous avez quoi comme choix aujourd'hui? Vous avez quoi en stock?
Franchement, l'émission est un peu faible.
on a des patates et on a des fraises. Bon, les gars, je vais prendre des fraises. Hein.
J'aime bien les patates.
Ouais, mais sauf que tu mets patate, fraise, patate, tu dis, je prends la fraise.
Donc, toi, tu choisis la fraise et ta fraise, c'est...
Plutôt.
Eh bien... Étonnamment, moi je choisirais la frite de Batman et Robin. Parce que franchement, le Damien Wayne m'a vraiment fait plaisir. Je suis super. Enfin,
pervers.
Je le lisais avec un petit sourire en coin, j'ai trouvé ça super sadique. Plutôt. Alors, clairement, si vous devez avoir un truc dans votre bibliothèque, prenez plutôt.
C'est la dernière fois qu'on pouvait le faire. Voilà, il a voulu. Et je ne dis pas le nombre de fois où il a répété avant.
Ah ouais, non, c'était dur. Par contre. Si vous voulez vous défouler et vous faire plaisir sadiquement, prenez Batman.
Ça marche moins
avec Batman qu'avec plutôt.
Si vous voulez vous défouler, vous prenez un The Boys et vous vous défoulerez aussi. Hein.
Voilà, bon, le meilleur du mieux, bon, on va dire que c'est quand même plutôt.
Non, t'as ton choix, j'ai mon choix, chacun le sien, attends.
Online.
Copier. Online, c'est.
Stouff et Jean Ouf.
C'est Stouff, Stouff Jean Ouf.
Stouff et Jean Ouf. Stouff et Jean Ouf sont deux designers, des maquettistes. Ouais, enfin, sans doute bretons, parce qu'apparemment, oui.
Ils, bah, sont près de Morlaix, visiblement. Ouais. Alors, ils finissent toujours par Kenavo, je me dis qu'ils doivent être bretons, quand même.
Voilà, ils sont à fond de Chouchène, comme nous, on est à fond de Myrte. Pourtant, on est d'accord, tu vois.
Et ah, pourtant, mais... le Chouchène, c'était moi il y a 15 jours. Hein.
Ah oui, c'est... Bon, vas-y, raconte tes vacances, si t'as rien à faire. Oh, si on faisait une, des diapos pour les poditeurs, on va faire un podcast vidéo avec les diapos de vacances de Thio.
C'est faisable.
Oh mon Dieu.
J'ai même une photo for école, au fait. Franchement,
oh mon Dieu. For école. Oh, putain, en plus, on va essayer, on commence à entendre les privés de jokes, les gens, ils sont peut-être perdus. Donc, Stouff et Jean Ouf, ce sont deux graphistes.
Je pense qu'il faudra qu'on mette sur le site là, une sorte de petite catégorie for école pour que les gens comprennent.
On vous expliquera un jour, peut-être, mais il va falloir qu'on trouve l'angle d'approche. Qui sont des graphistes qui sont, bah, en gros, il y a le rebelle. Alors, je ne sais jamais qui est Stouff et Jean Ouf, hein, bien sûr, forcément, je les confonds. Le rebelle qui veut faire de l'art.
Stouff, c'est celui qui a le pull rouge et Jean Ouf, c'est celui qui a le pull vert.
D'accord. Donc t'as... c'est lequel qui a des cheveux ?
C'est Stouff.
Ouais. Donc il y a celui qui veut faire de l'art, qui est un rebelle, qui veut faire des belles affiches, des trucs classe.
Parce que lui, c'est un graphiste de fou.
Ouais, c'est un graphiste, quoi. C'est un mec qui veut faire des choses beaux, belges, chiadées, avec du Helvetica, de la
main.
Parce
que le comics en MS est pourri.
Et puis t'as l'autre, bah, en fait, bah, les clients, ils veulent un truc vert fluo, avec du comics en MS en gros, et la date marquée en fluo... En vert sur rouge.
Pour la fête du cochon. Et,
ouais, et bah ouais, bah c'est les clients, hein, c'est eux qui décident.
Si le client il veut ça,
et
il
c'est un petit peu l'hypocrite lèche-cul du duo. Et ils se battent justement devant cette horreur qu'ils ont de. Alors qu'ils arrivent sur des projets super léchés, super design, super slickness à l'Apple, à devoir faire du Windows 3.1, quoi. Vas-y, vas-y, quel est ce regard qui fait peur ?
Je sais pas, peut-être prononcer des mots, j'ai rien compris.
D'accord. Bon, un truc super beau, lisse, classe. T'sais. En gros, tu prends un super iMac et tu les compares à la gueule qu'avait un PC à l'époque. Tu sais, le truc beige et carré.
Ouais, mais l'iMac, il était moche.
Ouais, mais alors le truc beige et carré.
Ouais, mais il était plus utile.
Ouais, bon. On va pas rentrer dans le débat Mac contre PC, de toute façon, c'est le PC qui gagne.
Ouais, mais tous ceux qui ont des Mac te diront « Ah, le Mac, c'est trop bien !»
Mais c'est pas des joueurs.
Non, c'est pas des joueurs.
Donc, c'est très drôle, il y a beaucoup d'autodérision sur leur métier, sur le fait qu'effectivement, pour quiconque a fait un peu de graphisme avec des gens qui n'y connaissaient rien en graphisme, alors, je fais un peu de graphisme, j'ai pas l'impression d'être un pro du graphisme, mais j'ai eu affaire à des gens qui, visiblement, n'y connaissaient vraiment rien. C'est-à-dire moins que moi, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose. Et je me suis bien reconnu dedans. Là, genre, ils arrivent et ils te montrent un truc et tu fais « Ah !» Ils te disent « Ouais, regarde, c'est ça qu'on va faire !» Et c'est un peu eux qui décident, hein, c'est eux qui payent, c'est eux les chefs. Et toi, tu fais « Ah !» Bon, ben, et si on essayait de faire un peu plus comme ça ? Ah ouais, mais non, mais... Ah ! Et voilà. Franchement, c'est très sympa. Il y a un style graphique, c'est du vectoriel, machin chose. Ils ont trouvé une sorte de nom bizarre pour leur style, moi que j'aime beaucoup. Vecto profilé ou je sais plus quoi. Donc c'est Stouff et Jean Ouf. C'est super sympa, super rigolo. Pas très régulier par contre au niveau des publications.
Peut-être qu'ils ont un vrai travail.
Ils sont graphistes. Ils doivent faire un truc fluo avec des marguerites.
Pour la fête du cochon.
Des marguerites pour la fête du cochon. Voilà. La foire agricole de Plumeur.
Non. Et... si, si, ils doivent faire aussi un truc pour l'école du neveu.
Oui, l'école du neveu.
Parce qu'ils ont réussi à avoir le bon de commande.
Oh, ouais. Putain, ouais. Enfin, le bon de commande quand on travaille dans une école, c'est énorme.
Ils te payent un cookie.
Ils te payent un cookie. Ça va pouvoir conclure.
Ben oui. Tiens, on est à la fin.
On est à la fin.
Wow,
ça s'est bien sorti. Alors, nous sommes fort déçus. Dis-le.
Oui, nous sommes déçus. Ouais, non, très déçus. Là, franchement, même limite, bon, on leur dit.
Ouais.
Bouh.
On vous a refilé nos collections complètes, quoi. Je veux dire, vous savez exactement ce qu'est notre bibliothèque. Si vous trouviez, votre adresse,
on a baissé notre trésor, on a tout montré, quoi.
Voilà. Et personne n'y a acheté un œil. Alors j'avoue que les interfaces pour jeter un œil ne sont pas forcément super sexy.
Elles aussi sont impinables. Mais,
oui. Mais nos collections ne sont pas impinables. On a sûrement des choses qui vous intéresseraient. Dont on pourrait
Il y a aussi des
de
choses
quatre.
Honteuses dont vous pourrez vous moquer si vous avez envie.
Voilà. Donc,
mais osez en parler.
Moi, ce que je propose, peut-être qu'apparemment, on leur demander de trouver des trucs sympas dedans, c'est de choisir le truc le plus honteux qu'il peut y avoir dans la bibliothèque et de demander d'en faire la chronique. Voilà, donc cher lecteur, j'ai cherché dans nos bibliothèques le truc le plus honteux possible, on en fera la chronique.
Par contre.
Et on va se foutre la honte réciproquement parce que vu que c'est chacun de nos bibliothèques, on n'aura peut-être pas osé le montrer à l'autre.
Par contre, juste une petite chose, si vous pouvez nous éviter les trucs en 55 tomes, ce serait sympa parce qu'il faut qu'on les relise avant de vous les chroniquer. Donc...
Surtout si c'est honteux.
Surtout si c'est honteux, voilà, que ce soit pas trop long quand même, parce que faites pas trop durer la torture.
Bon. Quoi qu'il en soit.
Toujours.
Toujours. Facebook. Nous sommes présents sur Facebook, facebook.com/1AClub. Je suis présent sur Twitter, twitter.com/1APied. Je suis aussi sur Google+, sous mon vrai nom qui ressemble à un pseudo, Pierrick Le Borgne. Quoi ? C'est vrai, mon vrai nom ressemble à un pseudo, j'y peux rien, je suis désolé. On dirait que c'est le nom d'un perso nain à donjon. Et alors, comment il s'appelle ton nain à Waram, ton pourfendeur de troll ? Ah, c'est Pierrick Le Borgne. Oh ouais, c'est classe comme nom de pourfendeur de troll. Dans la vraie vie, c'est beaucoup plus difficile.
Il avait un projet de BD d'ailleurs.
Voilà.
Mon nom est un surnom.
Et puis, on ne le répétera jamais assez, ça fait un moment qu'on n'a pas eu de commentaires sur iTunes. Et iTunes, on n'y peut rien, qu'on aime Apple ou pas. Moi, je trouve qu'ils font des bons produits, mais je ne suis pas fan non plus. C'est quand même le meilleur répertoire de podcasts. Et si vous nous laissez un commentaire, surtout s'il est positif, ça nous aidera à nous faire connaître. Et voilà, n'hésitez pas. Ça nous fera plaisir. On vous fera un grand sourire et on vous aimera tout
que
fort.
Que vous ne verrez jamais, mais on vous remerciera en direct.
On prendra une fois. Alors, si on a d'ici... pas la prochaine émission parce qu'on va l'enregistrer dans la foulée, mais allez, d'ici un mois, si on a 5 nouveaux commentaires, on vous fait une photographie en gros plan de nos sourires. C'est super vendeur, je pense que personne
ne va. Et on aura mangé de la salade avant.
Pari tenu. Merci de nous avoir écoutés, on se retrouve dans 15 jours.
Pour le 25 septembre.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao, s'il ne se trompe pas en fait.
Ouais, merci.
Au revoir.
Ciao.